Il semble que c'est bon de bien situer cette fête de la Pentecôte dans tout le temps liturgique, comme cette troisième grande fête de l'année. C'est la fête de l'Esprit-Saint lui-même. Et voyez comment le Saint-Esprit se révèle lui-même dans la Pentecôte. Il va se révéler lui-même par un coup de vent violent. D'abord, en quelque sorte, un dernier ébranlement des apôtres. Au fond, vous voyez, ces apôtres avaient été très ébranlés par tous les mystères de la croix de Jésus. Les apparitions de Jésus les avaient un petit peu soutenus. La prière, la grande retraite qu'ils avaient fait pendant 8 jours avec Marie, on les avait un petit peu apaisés. Les différentes apparitions de Jésus avaient été bonnes. Quand le Saint-Esprit va apparaître aux apôtres, ça ne va pas être d'abord cette petite brise qui précédait la venue des prophètes de l'Ancien Testament. On sait très bien que les apôtres, dès le commencement de leur mission, Jésus leur avait déjà donné des charismes. Hein? Le charisme de la guérison, le charisme de chasser les démons, le charisme de la parole de Dieu, d'annoncer cette parole de Dieu. On peut dire tous les dons prophétiques que les prophètes de l'Ancien Testament avaient, Jésus les donne avec une intensité plus grande, mais beaucoup plus d'humilité et de douceur à ses apôtres au début de sa vie publique. Mais la Pentecôte, si c'est la fête de l'Esprit Saint en personne. La très grande grâce dont tous a demandé au Saint-Esprit, c'est qu'il nous donne, qu'il se donne lui-même à nous, que le Père et le Fils nous donnent le Saint-Esprit. Vous voyez, moi je pense que c'est la grâce très particulière de nos pauvres. Vous voyez, c'est la grâce très particulière de toi. On ne peut pas dire que, certes, nous aimons. Et je suis heureux qu'il y a certains d'entre nous qui aient été au grand rassemblement de Strasbourg, hein, parce qu'il y a toujours eu des liens avec les milieux charismatiques. Hein. Et on ne peut pas dire que la communauté de l'Arche, je dirais sa première note, ce soit cette note-là. Certes, elle l'a, cette note. Mais je pense que nos pauvres nous obligent d'aller plus loin. Au fond, moi, je ne me sens pas du tout poussé à vous exhorter au début à cette veille de Pentecôte de vous demander d'abord que vous demandiez d'abord les charismes du Saint-Esprit, ou même que vous demandiez d'abord les différents dons du Saint-Esprit. Vous voyez, depuis le début, depuis le début du temps pascal, je me sens très fort poussé à demander pour moi et quand. Et après, au fond, il demande pour les autres, il demande pour lui-même. Surtout quand il s'efforce de prêcher comme notre Seigneur a demandé au fils de Saint-Dominique, c'est-à-dire d'une prédication qui soit la plus près possible de la contemplation. C'est le don de l'Esprit-Saint, la révélation de l'Esprit-Saint en personne. Et je crois qu'il faut que nous ayons très fort conscience qu'à notre époque, et très spécialement être lui, parce que vous savez, être lui, on n'est pas dans un paradis terrestre. On est dans un milieu protégé sous certains aspects, mais pas protégé par rapport aux démons. Les démons s'acharnent de toute manière. Au fond, il faut que nous le sachions. Parce que partout où est Marie, le démon s'acharne. Et si nous savons que Marie aime les pauvres, pas à cause de nous-mêmes, mais à cause des pauvres, que Marie est très fort ici, il faut que nous sachions que c'est un lieu où nous risquons d'être. Ben oui, que le démon, il risque de s'attaquer très fort vis-à-vis de nous, d'une manière ou d'une autre. Je dirais pas, c'est pas ici que nous avons au moins pour le moment. Peut-être qu'un jour ou l'autre, bon Dieu nous demandera de connaître des persécutions extérieures. pas ça qui marque d'abord, là, au fond, ici. Mais il faut bien pas oublier que dans l'Évangile, quand on regarde Jésus, comment Saint Jean a soin de montrer, dès le discours sur le pain de vie, comment le démon entre à l'intérieur du petit collège apostolique, comment il, de toute manière, tâche d'ébranler ce pauvre petit collège apostolique. Et comment, au fond, Jésus lui-même dira à Pierre un moment, quand il lui parle de la croix et que Pierre lui dit « Mais non, pas ça !» Et Jésus lui répond en disant « Rétro Satanas !» Là, les paroles de Pierre, elles ne viennent pas de l'Esprit Saint, elles ne viennent pas du Père, comme les paroles qu'il venait de dire avant. Et qui nous montrent très bien que nous pouvons être inspirés de Dieu à un moment. Et puis qu'il part un coup de panique. Et puis que le démon cherche à renverser la vapeur. Il ne faut pas nous en étonner. Parce que ce grand vent, faut tout de même, voyons que c'est le grand vent, et que ce n'est pas le tonnerre tout de même. Ce n'est pas le tonnerre qui va présider à la promulgation de l'ancienne alliance sur le mont Sinaï. Il y a une grande différence entre la promulgation de la nouvelle alliance, parce que c'est à la Pentecôte que la nouvelle alliance est promulguée. Vous voyez, c'est vraiment le jour où est promulguée cette nouvelle alliance. Bon. Si, comme je vous dis, avant que le Saint-Esprit ne soit donné, Jésus qui avait dit à ses apôtres, vous êtes purs, mais en fait, il y a encore tout de même des petites poussières. Oui, le bon Dieu vous a déjà beaucoup travaillé. Vous avez déjà beaucoup de foi, beaucoup d'espérance en Jésus. Mais il y a encore des petites écorces, il y a des petites choses. Et ne vous étonnez pas que pour la Pentecôte, il puisse y avoir un grand vent encore. Vous voyez, comme pour ébranler, pour faire, vous savez, à l'approche de l'hiver, vous voyez ici, près de la forêt, voyons très bien, pas quelquefois l'hiver reste très très verdoyant, très très verdoyant jusque, même pendant le mois de novembre. Bon, et puis tout d'un coup, il y a un petit peu une gelée, et puis s'il y a un grand vent après, voilà toutes les feuilles qui s'emportent. Vous voyez, il y a le grand vent qui veut quelquefois emporter les feuilles mortes qui ne sont pas encore complètement dépouillées. Vous voyez, il faut bien voir cela. Et puis après ce grand vent, le Saint-Esprit lui-même va être donné par l'apparition d'un globe de feu. Vous voyez, et ça m'apparaît très très fort de voir, oui, ce globe de feu. Vous voyez, le mot même « globe » montre quelque chose de global. Le Saint-Esprit, quand il va apparaître de façon visible, ça va être sous la forme, au fond, le signe le plus divin. Jésus a dit « Je suis venu apporter le feu sur la terre ». Il y a beaucoup de signes de l'Esprit Saint. Il y a le vent. Et nous retrouvons justement dans ce grand vent, le souffle. Nous savons que l'eau vive, c'est aussi un signe de l'Esprit Saint. Et nous le savons très bien avec le baptême. Nous savons que la vie, sous forme de l'onction de l'huile, nous forme la vie en tant qu'elle se développe. Elle a tout un aspect de l'eau vive, c'est encore un sens de l'Esprit Saint. Mais le sens comme le signe, comme le plus divin de l'Esprit Saint sur la terre, c'est le feu. Il a dit qu'il viendrait apporter le feu sur la terre. Et maintenant, les savants demandaient à Xavier, on sait bien que ça fait au début de l'univers, dès que l'univers matériel a été créé, apparu comme sous l'aspect d'un quelque chose de global. Et de global, en quelque sorte, comme enveloppé au fond, c'est du feu qu'est sortie la lumière. Et puis, après que Jésus soit venu préparer la venue de l'Esprit Saint, parce que c'est le plus grand don que Jésus nous fait en nous donnant l'Esprit Saint. Ça, c'est le dernier don de Jésus, en quelque sorte, ce don de l'Esprit Saint. Et c'est ce qu'il a vu quand il dit « Tu viens apporter le feu sur la terre ». Et ce gland, de ce globe de feu se répartit de multiples flammes, on appellera des langues de feu, de cette manière qu'on le présentera, vous voyez, bon, qui vont, ces langues de flammes, se révéler dans le don des langues. Et qui va montrer que une des suites du péché originel était apparue avec la confusion qui avait suivi la tour de Babel, quand les hommes s'étaient efforcés en quelque sorte de vouloir montrer ensemble, s'unir ensemble, en construisant une grande tour, au fond qui défie le ciel en quelque sorte, vous voyez, au fond une grande tour qui réunissait en quelque sorte tout le monde dans un même travail. Et puis que cet orgueil a été suivi, confusion des langues. Quand on va dans notre monde actuel, dans toutes ces grandes villes où chacun veut rivaliser par rapport à l'autre, au fond par des grands ensembles, au fond par des tours gigantesques, au fond par des organisations, au fond très très sophistiquées, si on peut dire, souvent. On sait très bien que ça ne fait pas naître une confiance plus grande entre les personnes. Ça ne fait pas naître, au fond, une entente, une fraternité beaucoup plus grande. Et la plupart du temps, il y a une espèce de confusion qui en suit. Bon. À la Pentecôte, vous voyez, comme on voit souvent dans la vie spirituelle, tout commence, vous voyez, dans une Pentecôte qui réunit tout. Et le grand vent qui prépare, et puis cette globe de feu qui se répartit en multiples flammes, qui se révèle par ce don des langues, les gens qui parlent des langues différentes et qui se comprennent, les gens qui, au fond, qui parlent une langue et quelqu'un qui ne comprend pas sa langue, qui le comprend, un autre qui parle d'une langue qui ne comprend pas et celui qui l'entend la comprend. Ça a été tout de suite signifié comme un des dons particuliers du Saint-Esprit. Et ces langues se donnent à tous ceux qui sont là, se répartissent à tous ceux qui sont là. Et toutes ces manifestations, elles vont s'achever en quoi? Pour Marie et pour Jean surtout, les apôtres font ensuite célébrer l'Eucharistie. On n'en parle pas immédiatement au point de vue de la Pentecôte, mais nous savons très bien que dans les Actes, mais au fond, c'est autour de l'Eucharistie que les gens se groupent. Vous voyez? Et il faut tâcher de comprendre, vous voyez, comment dans cette manifestation du Saint-Esprit, dans cette fête du Saint-Esprit, qu'est-ce que le bon Dieu nous demande avant tout? C'est une humilité extrême. Oui, moi, ça, vous avouez que ça me frappe beaucoup, pas quand on tâche de voir toute l'économie de l'incarnation. Et quand on tâche de prendre cette économie de l'incarnation, la voir un petit peu à la lumière de l'histoire de l'Église, et de voir que dans cette histoire de l'Église, il y en a qui sont entrés à fond, vous voyez, dans la marche, au fond, qui avait inauguré la Pentecôte. Et puis il y en a d'autres qui ont toujours eu beaucoup de difficultés. Et que ce sont toujours ceux qui ont été doux et humbles qui ont été le plus. Et qu'à notre époque surtout, les saints canonisés, les saints que l'Église nous présente, à notre modèle actuellement, ne sont pas de grands docteurs la plupart du temps, ne sont pas de grandes intelligences, Ce ne sont pas des gens très actifs. Ce ne sont pas ceux qui ont eu les activités les plus visibles dans l'Église des derniers temps. Mais tous, ce sont des tout petits, ce sont des pauvres, ce sont des humbles. Et alors, il me semble qu'à cette lumière, c'est tellement important de voir. Vous voyez que dans cette révélation de la Sainte Trinité, voyez, le Père, le Fils, l'Esprit-Saint, il y a comme une humilité de Jésus. Le Père envoie bien son Fils. Voyez, et son Fils, c'est bien librement, hein, comme personne fils, comme la seconde personne que lui-même vient dans ce monde et que lui-même, avec le Père et l'Esprit-Saint, a décidé toutes les conditions, toutes les modalités, tout le chemin qu'il allait prendre. Et qu'est-ce qui est frappant? D'abord, l'humilité extraordinaire du Fils vis-à-vis de son Père. Vous voyez, la première révélation que Jésus vient nous donner, c'est nous révéler son Père. Est-ce que Jésus va vouloir nous révéler son Père avant tout sous le signe de la toute-puissance, avant tout sous le signe de la sagesse extraordinaire du Père? Nous savons très bien que Thomas d'Aquin dit de façon très explicite quand il parle de toutes les sciences dans notre Seigneur, il a fait un traité splendide sur les sciences du Christ, que tous les secrets de la nature, Jésus les connaissait, que tous les secrets que les savants découvrent actuellement, Jésus les connaissait. Est-ce que Jésus a voulu comme faire sentir un petit peu à ses apôtres que ce nouveau monde qui allait commencer, ça va être un monde qui allait apporter une nouvelle culture, une nouvelle civilisation? Est-ce que Jésus a voulu que dès la Pentecôte, il y ait comme quelques très grandes découvertes, ou que dans ses paroles, il dise quelques mots qui disent, enfin, Jésus, dès le début, il a voulu nous montrer, au fond, comment cette nouvelle civilisation, elle est arrivée à la découverte de l'atome, elle est arrivée à l'informatique, elle est arrivée à toutes ces grandes découvertes actuelles. Non, c'est par la voie de l'humilité. Jésus veut nous faire connaître, je dirais, la tendresse de son Père. Vous voyez, je dirais presque l'humilité du Père. Bien sûr, l'humilité est en Dieu. Mais il nous fait connaître le Dieu d'amour. Vous voyez, quand le pape nous parle dans sa seconde encyclique, vous voyez, de l'incarnation, en la montrant qu'elle n'est que l'illustration de la parabole de l'enfant prodigue. Il y a le père de famille. Est-ce qu'il ne donne pas un exemple? Moi, je vous l'ai déjà souvent dit, mais je pense que c'est bon la veille de la Pentecôte de le rappeler. Moi, je n'ai jamais trouvé encore sur la terre un père de famille qui littéralement vive la parabole de l'enfant prodigue. Avec toutes les notes qu'on voit dans cette parabole de l'enfant prodigue. Comme je l'ai dit, j'ai déjà trouvé des mamans, oui, qui avaient cette attitude. Mais je n'ai jamais trouvé un père qui est en même temps toute sa qualité de père. Non pas un père faible, dans le mauvais sens du mot. Non pas un père mou qui se laisse mener. Mais un vrai père, oui, qui est vraiment l'attitude, au fond, du père de l'enfant prodigue, qui va au-devant de son enfant prodigue, qui fait pour son enfant prodigue ce qu'il n'a pas fait pour ceux qui sont restés fidèles pour lui, qui donne l'exemple, vous voyez, d'une miséricorde humble. Au fond, c'est si rare que notre miséricorde soit humble. Si souvent, notre miséricorde, même sans que nous en rendons compte, elle blesse ceux que nous voulons aider. parce que notre moi est encore trop là, parce que nous faisons encore trop sentir que nous sommes encore un petit peu comme des protecteurs, que nous sommes encore un petit peu comme des bienfaiteurs. Donc, au fond, nous n'arrivons pas à nous faire oublier. Quand on voit l'incarnation, Jésus, le Père qui envoie son Fils comme le plus petit des enfants des hommes, hein, mais réellement comme le plus petit des enfants des hommes. Vous voyez, qu'il le confie à Marie. Et tu veux que ce soit Marie d'abord qui soit le signe du Père. Et Marie, cette toute jeune Marie de 18 ans à l'Annonciation, cette jeune Marie qui, dans son fiat, dans l'obscurité, elle dit son fiat, qui, dans une extrême faiblesse, et que le Père veut pour que Marie soit bien le signe de cette tendresse de sa paternité, de sa miséricorde de cette paternité, qui va apparaître en Jésus, qui veut que... Ben, que Marie, dès le début, prenait tous les mystères, le mystère de la visitation, le mystère de Noël. Vous voyez, tout ce mystère-là le montre avec force. Et pendant toute la prédication de Jésus, quand il parle de son Père, lui qui est le Fils de Dieu, bien sûr, il affirme bien qu'il est le Fils de Dieu. Bon, il ne veut pas, là il est fort, parce qu'il sait très bien que c'est pour ça qu'il va être mis à mort. Et Jésus, d'aucune manière, ne fuit la croix. D'où, là, il affirme bien qu'il n'est pas simplement fils de Dieu par métaphore, parce qu'il fait réellement les actes. Je te pardonne, j'efface tes péchés, je te guéris, je te sauve de la mort. Les actes que Dieu seul peut faire, Jésus les fait. Et il affirmera bien qu'il est le Fils de Dieu. Mais vis-à-vis des pauvres, vis-à-vis des pécheurs, vis-à-vis des petits, c'est cette tendresse, cette miséricorde qui met en avant. Mais peut-être que nous n'avons pas encore assez remarqué. Peut-être que ce que le bon Dieu voudrait que nous comprenions mieux cette année pour la Pentecôte. C'est l'humilité extraordinaire, je dirais, du Fils par rapport au Saint-Esprit. Oui, ça, c'est quelque chose. C'est un très, très grand mystère. Et quand on pense que Jésus dit à ses apôtres, Jésus si doux, Jésus si miséricordieux, Jésus qui est une telle image du Père, et qui dira à ses apôtres, il est bon que je m'en aille pour vous envoyer l'Esprit. Il est bon que je vous quitte. Il est bon que je vive le mystère de la Pâque pour que le Saint-Esprit puisse vous aider. Et que Jésus, après même sa résurrection, qui va en quelque sorte demander en quelque sorte encore, va dans son ascension, va laisser encore les apôtres pendant 10 jours sur la terre, seul avec Marie. Et que c'est ces deux départs que Jésus considère comme nécessaires pour qu'il puisse recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez, au fond, qu'est-ce que c'est que l'humilité? L'humilité, c'est de s'effacer visiblement en face d'un autre. L'humilité, c'est ce que Jésus a dit quand il a dit à ses apôtres, prenez la dernière place. Aimez, vous effacez en face des autres. Et c'est la grande humilité que Jésus demande entre ses disciples. Donc, quand Jésus leur lave les pieds, au point avant d'instituer l'Eucharistie, il y avait bien pour cela. Il montre que c'est prêtre, il faut qu'il sache s'effacer vis-à-vis des autres. Et c'est cette humilité-là qui nous est difficile. Vous voyez, et c'est cette humilité-là que le démon cherchera toujours, par tous les moyens, de ne pas nous faire pratiquer. Vous voyez, sous tous les prétextes. Vous voyez, et que si l'Esprit Saint devient en nous, nous n'arrivons pas à le comprendre. Parce qu'il faut en quelque sorte, vous voyez, que le Saint-Esprit n'est pas dépassé, en quelque sorte, vous voyez, tous les raisonnements de notre esprit. Vous voyez, il faut que le Saint-Esprit puisse en quelque sorte comme nous plonger en quelque sorte en lui-même. Vous voyez ? Plus grave que celui contre le Fils de l'homme. Vous voyez, pensez à Jésus, hein, Jésus qui a été mis à mort, hein, par ses persécuteurs. Hein, Jésus qui a été trahi par Judas. Et Jésus qui ne craint pas de dire, c'est pas ceux qui m'ont mis à mort qui ont commis le plus grand péché. C'est pas là le plus grand péché, ceux qui atteignent le Fils de l'homme. Il y a un péché plus grand auquel il faut faire plus attention. C'est celui où c'est par rapport au Saint-Esprit. Comme si Jésus qui recommande à ses apôtres, certes, observez bien tout ce que je vous ai dit, mais soyez encore plus fidèles. La fidélité dernière que vous devez avoir, c'est vis-à-vis de cet autre paraclet que je vais vous envoyer. Vis-à-vis de cet Esprit Saint que je vais vous envoyer. Et c'est lui, alors, qui vous enseignera toutes choses. Jésus s'efface en quelque sorte en face du Saint-Esprit. Il y a un très, très grand mystère. Et prenez d'autre part, quand Jésus dit à ses apôtres, il est bon que je m'en aille pour vous, et vous ferez des œuvres plus grandes que moi. Et Jésus montre bien que ces œuvres plus grandes que lui font les apôtres, ils les feront bien encore au nom de Jésus, ils les feront bien envoyés par Jésus. Mais ils les feront parce que le Saint-Esprit viendra habiter en eux. Et parce qu'il le feront avec le Saint-Esprit. Et alors c'est pour ça que ça m'apparaît tellement important de voir que la Pentecôte, c'est ce jour de la naissance de l'Église, en tant que certes elle continue la mission de Jésus, mais elle continue la mission de Jésus dans, par l'Esprit Saint. Vous voyez, à Pâques, et pendant le temps pascal, ils ont encore eu les paroles de Jésus. Ils ont encore eu les gestes de Jésus. Et le jour de la Pentecôte, Jésus est caché. Et il n'y a même pas de paroles prophétiques. C'est la manifestation de l'Esprit-Saint. Et c'est à ce moment-là que l'Église commence. Et alors, ça me semble... Les grâces qu'il nous faut demander très fort. Voyez, d'abord, la première grâce de tout qu'il nous faut demander au Saint-Esprit. Voyez, parce que c'est une grâce que nous avons tous à recevoir. Chacun selon le mode que Jésus voudra. Mais qu'il nous faut tous demander, voyez, avec beaucoup d'humilité, mais en même temps une confiance immense. Et une confiance d'autant plus grande que peut-être les difficultés sont plus grandes que jamais. Parce que, il faut nous rappeler les paraboles, les béatitudes évangéliques. Vous voyez, au fond, les béatitudes évangéliques, la première, elle se rattache à la foi, mais toutes les autres, elles se rattachent à l'espérance. Vous voyez, et nous savons très bien, vous voyez, cette humilité de Jésus. Jésus est venu avant tout dans la plénitude des temps établir une église de l'espérance. Mais si Jésus assez vite est arrivé à convaincre ses apôtres qu'il était le Fils du Dieu vivant, qu'il était le Messie, quand Jésus a voulu leur faire comprendre que c'est par sa croix qu'il voulait les sauver, quand Jésus a voulu leur faire comprendre quelle serait la force nouvelle qu'il lui apportait, que c'était, comme saint Paul le dira, dans la faiblesse. Cette force, elle ne peut venir que de l'Esprit Saint. Vous voyez, bien, nous apercevons que les apôtres n'ont pas compris. Et que les apôtres, jusqu'à la veille de la Pentecôte, le Saint-Esprit venait les trouver quand ils étaient verrouillés dans le cénacle. Vous voyez, il n'y a pas eu d'abord une première grâce de grand vent. Et puis les apôtres, avec ce grand vent, ont senti qu'ils allaient ouvrir tous les verrous. Ben, si vous voulez, vous voyez, comme si la Pentecôte s'était réalisée pour plusieurs temps, ben, comme on fait quelquefois dans une célébration, maintenant on va ouvrir toutes les portes, on va ouvrir tous les verrous. Bon, premier temps, et puis ensuite va être donné le feu et l'angle de feu. Non, ils n'ont rien compris à ce grand vent. Ils ont encore été plus ébranlés. Et c'est quand ils étaient bien verrouillés que le Saint-Esprit est venu leur être donné au plus profond du cœur. Bien, sans doute, d'abord, ils ont senti que leurs paroles, ils ont commencé à parler sans trop comprendre ce qu'ils disaient. Bon, ils ont commencé à sentir que cette communauté qui était l'Église, mais était en train de se faire. Bon, ils ont senti qu'ils formaient une grande famille, mais tout à fait unifiée. Bon, Pierre, pour les autres, ils ont senti unis. Alors qu'avant, au fond, ils se sentaient tous très dispersés. Ils sentaient qu'ils avaient été ébranlés par la croix de Jésus. Jésus, le bon pasteur, était venu les rassembler. Mais qu'au fond de leur cœur, intérieurement, tout n'était pas encore réalisé. Et puis, c'est le Saint-Esprit qui leur est donné comme cet ami nouveau qui vient les délivrer de la peur. Et ça, c'est la première grâce en tout ça demandé au Saint-Esprit. Vous voyez, il y a un très, très grand mystère. Vous disiez, la Pentecôte, c'est la promulgation de la loi nouvelle. Mais qu'est-ce que c'est que cette loi nouvelle? Cette loi nouvelle, elle consiste dans la grâce, saint Thomas lui-même qui le dit, mais dans une grâce qui est si extraordinaire, si sanctifiante, que nous ne pourrons l'exercer qu'avec le Saint-Esprit. Que si le Saint-Esprit devient en nous cet ami intime, que si le Saint-Esprit devient vraiment cet hôte divin avec lequel nous vivions, que ce sera lui-même qui nous fera expérimenter cette grâce. Ce sera lui-même qui, dans une nouvelle expérience, nous fera découvrir tous les trésors qu'il y a dans cette grâce. Vous voyez, ça je crois qu'il faut demander au Saint-Esprit de nous faire comprendre. Vous voyez, la loi nouvelle consiste dans la grâce et dans l'Esprit Saint lui-même. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire, une loi qui consiste dans l'Esprit Saint lui-même. Oui, cette loi nouvelle, oui, quand on compare avec l'Ancien Testament, la promulgation au fond de la loi au moment de l'Ancien Testament, avec bien le décalogue qui était la loi fondamentale, au fond avec le Lévitique, bon, avec tout ce qui était précisé pour la justice civile, sociale, au fond pour les Juifs, pour qu'ils forment ensemble un peuple. Et ils ont bien leur constitution, là, au fond, qui était donnée, au fond, au Sinaï. Et avec le nom de Jésus qui correspond à la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint lui-même. Mais c'est l'Esprit Saint lui-même qui ne se manifeste pas extérieurement. Vous voyez, s'il y a eu la colombe pour le baptême de Jésus, on ne parle pas de colombe à la Pentecôte. Mais il y a simplement ce globe de feu, ces flammes qui viennent s'intérioriser en quelque sorte. Au fond, vous voyez, si on voulait dire qu'il y a trois temps, en quelque sorte, bah oui, il y a eu d'abord ce grand ébranlement, au fond, ce grand vent, puis il y a eu ce globe de feu, bon, puis ces flammes, puis tout ça qui s'est intériorisé. Et puis ces apôtres qui sont venus à parler, ces disciples entre eux, et puis qui surtout sont complètement changés intérieurement. Parce que l'Esprit Saint leur a donné une espèce de force. Vous voyez, cette force que l'Église nous a fait pendant tout le temps pascal, nous en a parlé. Vous voyez, réfléchissez un peu. Vous voyez, surtout après, avec notre monde actuel, qui est très pris par tout le point de vue psychologique, le point de vue historique. Vous voyez, prenez un grand psychiatre, un grand psychologue, vous voyez, qui aurait fait l'analyse de Saint-Pierre. Vous voyez, au fond, quand Saint-Pierre, juste au moment du reniement, Ou même de Saint-Pierre, encore après Jésus ressuscité, étant mis un petit peu le... Bon, mais se verrouillant, n'ayant pas confiance en lui-même, demandant à tout le monde de lui désigner, et puis tu te ressors, il sent bien qu'il n'a pas encore l'Esprit Saint en lui. Et puis, voyez Saint-Pierre, quelques semaines après. Voyez, lui, quand Jean avait été le chercher, il avait dit, « Pierre, viens, on va tâcher de défendre Jésus. » Et puis que Pierre se mit à courir avec Jean, au fait, et puis quand il arrive dans le palais de Pilate, et puis qu'un servant lui dit, « Mais celui-là, quoi, tu n'étais pas avec eux ?» Et puis voilà Pierre qui est tout ébranlé, et puis « Non, je ne le connais pas. » Et puis qui part trois fois le répète. Bon, et puis qui après pleure à meurement, enfin, parce qu'on voit bien qu'il a gardé la foi. Bon. Pourtant, lui, il avait tiré son épée, il aurait été un beau soldat. Oh, il serait martyr mort, il serait bien mort comme un martyr si Jésus l'avait laissé se le défendre. Mais l'église de Jésus, c'est avant d'être l'église des martyrs, c'est l'église de l'agneau de Dieu. Et dans nos temps actuels, le pape nous rappelle bien, c'est l'église de ceux qui savent tenir dans l'agonie. Vous voyez, c'est relativement facile de tenir dans les persécutions, vous voyez, quand on peut réagir. Vous voyez, c'est très difficile de tenir dans les persécutions, et surtout dans les persécutions qui viennent du démon, quand on sent que ce qui nous est demandé, c'est tenir, vous voyez, délivrer tout barouf d'honneur, pour pouvoir qu'on ne vous mette pas dehors, que vous puissiez rester là, tenir, pardonner à ces persécutés. Et avoir assez de confiance dans l'Esprit Saint pour qu'un des plus persécuteurs comme Paul, quand il revient après et qu'il demande d'être apôtre, bon, toi, on ne va pas te faire confiance tout de suite, Bon, tu étais parmi leurs persécuteurs, tu nous as persécutés, tu étais là au moment où Étienne a été mis à mort. Bon, mais reconnaissant que le Saint-Esprit est là, sachant que Jésus a dit, ayant prié pour Paul, tous, comme Étienne, bon, alors qu'ils sont tout à fait prêts à la mettre parmi leurs frères, leurs sœurs. Oui. Voilà. Alors cette église, vous voyez, cette église, au fond, qui se constitue, vous voyez, voilà, c'est ça qui est le mystère de l'Esprit Saint. Vous voyez. Alors nous avons tous à demander, prenez donc vers l'Esprit Saint, parce qu'aucun d'entre nous ne connaît assez l'Esprit Saint. Nous avons une connaissance de l'Esprit Saint encore tellement plus profonde à faire. Vous voyez, et demander que ce qui a été la grande surprise, vous voyez, des apôtres, ils pensaient connaître déjà si bien Jésus. Non, ils pensaient que Jésus ressuscité, Jésus qu'ils avaient revu, Jésus qui ressuscitait est devenu le bon pasteur plus près d'eux, le bon pasteur qui était venu les prendre l'un après l'autre. Le bon pasteur qui avait réuni Marie-Madeleine d'abord, et puis les disciples d'Emmaüs, et puis les douze, et puis qui avait parlé de façon spéciale pour Pierre et pour Jean, et qui cependant, le secret de Jésus ne connaissait pas encore. Et voilà que le Saint-Esprit vient se donner au plus intime d'eux-mêmes, et si Jésus s'est effacé en face du Saint-Esprit, il y a un grand mystère de la Sainte Trinité. Les personnes divines, elles se révèlent en nous. Vous voyez, le Père est en quelque sorte comme effacé en face du Fils. Vous voyez, le Père, il a voulu que ce soit un Fils d'homme qu'il révèle. Il y a un mystère immense dans cette économie des personnes divines quand elles viennent se révéler à l'homme. Mais quand le Saint-Esprit s'est révélé, tout de suite, le Saint-Esprit a fait comprendre que l'amour qu'ils ont pour l'Esprit Saint, c'est avec le même amour qu'ils aiment Jésus. Alors qu'ils ont découvert que Jésus était encore tellement plus présent. À la religion de Jésus, c'est la religion de la présence. Et l'Eucharistie de la présence. Vous voyez? Mais nous n'arrivons jamais assez à comprendre que la présence, ce n'est pas la présence physique, extérieure. C'est cette présence intime du cœur. Oh, bien sûr, chaque fois que le bon Dieu nous le donne, nous le redécouvrons. Bon, quand j'étais à Chicago, ben, il y a des moments où j'étais beaucoup plus près de chacun d'entre vous que j'étais pendant la journée. Parce que si dans la raison, si intimement près de Jésus, il n'y a pas de distance, vous voyez, le présent, hein, vous voyez, ce présent dont saint Jean de la Croix parle si fort, hein, vous voyez, cet instant présent, hein, qui nous empêche de passer notre temps dans le passé ou dans le futur, hein, ce présent qui est si faible en lui-même, au fond, qui nous est à la fois si facile et si difficile de rester dans cet instant présent. Vous voyez, eh bien, ce présent, ben, il n'y a plus d'espace pour le présent. Ce présent, par le fait qu'il est lié immédiatement à l'éternité, dans le présent, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus, au fond, non, tout est donné dans ce présent. Alors, ça, au fond, les apôtres le découvrent, vous voyez, et c'est là la naissance de l'Église. Cette église de l'amour, cette église du présent. C'est le Saint-Esprit qui leur fait découvrir Jésus. Vous voyez ? Parce que la Pentecôte, c'est Jésus vivant dans son église. C'est Jésus vivant au milieu de ses apôtres. C'est ça la Pentecôte. Vous voyez ? Bien sûr, Marie, avant la Pentecôte, elle était présente à Jésus. Mais les apôtres ne connaissaient pas encore cette présence de Jésus. Oh, oui, ils aimaient bien Jésus comme prophète. Ils croyaient qu'ils étaient présents à Jésus. Et quand Jésus venait là, leur apparaître ressuscité. Oui, ils étaient pleins. Mais on montrait qu'ils n'avaient pas encore tellement la présence, parce que si dès Jésus disparaissait, ils n'arrivaient pas assez fort eux-mêmes pour, dans la prière intime, retrouver cette présence de Jésus. Ils avaient besoin du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Et c'est à la grâce que le Saint-Esprit leur est donné. Vous voyez ? Et c'est ça la grâce qu'il nous faut demander, très fort. Vous voyez ? Ça, c'est la première. Et elle contient toutes les autres. Vous voyez ? Si nous demandons vraiment à Jésus de nous donner la personne de l'Esprit-Saint, que le Saint-Esprit devienne pour nous vraiment un ami, que le Saint-Esprit soit vraiment celui qui vienne unifier tout en nous de l'intérieur, vous voyez, mais en même temps qu'il unifie tout en nous de l'intérieur, vous voyez, qui nous ouvre pour tout l'espace. Hein, vous voyez, parce que par le fait même, bon, partout où le Saint-Esprit agit, bon, au fond, on peut y communier. Vous voyez. Alors, ça, la première grâce de l'Esprit-Saint, vous voyez, c'est bien cette grâce, cette présence de Jésus. Mais vous voyez, mais c'est si bon de voir. Quand même, dans cette Pentecôte, vous voyez, l'Annonciation, ça a été à Danemark toute seule. Vous voyez, à la Pentecôte, le Saint-Esprit a voulu se donner à tous les apôtres ensemble. Les apôtres et les disciples. Hein, et pas simplement les 75, mais vous voyez, et on voit tout de suite que cette grâce de Pentecôte, elle se répand. Vous voyez, dans les actes, on ne nous dit pas le soir de la Pentecôte, ça a été fini la fête. Hein, non, ça se prolonge, ça se continue. Hein, parce que les gens parlent en langue, et puis il y en a d'autres qui viennent. Vous voyez, et puis remarquez dans les dessins de Jésus, comme c'est doux de voir. Vous voyez, cette humilité de Jésus. Vous voyez, après sa passion, hein, vous voyez, le grand voile s'est déchiré, hein, tout l'Ancien Testament, c'est fini, c'est la nouvelle alliance. Mais Jésus a une sorte de délicatesse extraordinaire. Ce peuple juif, dans ses prêtres, dans ses anciens, dans ses pharisiens, dans ses scribes, n'a pas reconnu Jésus. Mais l'amour de Jésus pour son peuple est encore bien plus fort. Et avec le Père et l'Esprit Saint, ils ont bien décidé que l'avenue de l'Esprit Saint, elle sera encore à l'anniversaire d'une fête juive. Ce serait la fête des temps. Vous voyez, ce serait le jour où alors, ce ne serait pas simplement les Juifs de Jérusalem, mais où tous les Juifs de la diaspora venaient. Vous voyez, et c'est ce jour-là où le Saint-Esprit se donne à tous en même temps. Ah, c'est une grande grâce qu'il faut demander au Saint-Esprit de faire comprendre. Le Saint-Esprit peut se donner à chacun, il peut se donner à tous. Et il faut toujours nous demander, vous voyez, si... Quand nous ne laissons pas assez le Saint-Esprit grandir en nous, il y a souvent deux raisons. Hein, mais je prends un examen de conscience, on a toujours à le faire. Vous voyez, ou nous n'avons pas assez le souci Oui, de nous retirer pour rester avec le Saint-Esprit. Ou nous ne comprenons pas assez que « donne-moi l'Esprit Saint et cela me suffit », que le Saint-Esprit me donnera Jésus, me fera vivre, et pour depuis que Marie est montée au ciel, me fera vivre avec Jésus et Marie. Bon. Et alors, quand Jésus et Marie, j'ai la tête du corps mystique, j'ai le cœur du corps mystique, j'ai la source de vie du corps mystique, donc tout m'est donné avec eux. Bon. Mais qu'en même temps, Jésus a voulu que son Église, ce soit en même temps une famille de frères et de sœurs bien-aimés, et en même temps un peuple en marche. Vous voyez, et que c'est un peuple de frères et de sœurs qui aura bien, certes, au fond ses prêtres, qui aura bien ses pasteurs, qui aura bien son pape, mais qui sont à l'intérieur de ce peuple, qui auront d'abord cette grâce de l'Esprit Saint, cette grâce fraternelle. Non, c'est frères et sœurs, mais d'une façon nouvelle, des frères et sœurs bien-aimés. Vous voyez, et très souvent, vous voyez, si notre vie surnaturelle, il y a des obstacles au développement de notre vie surnaturelle, vous voyez, c'est soit parce que nous n'attachons pas assez d'importance à cette prière intime du cœur, et que nous ne revenons pas assez près de Jésus, ou parce que nous nous isolons trop, vous voyez, et nous ne comprenons pas que les 12 grands commandements n'en font qu'un, mais de façon toute nouvelle depuis la Pentecôte. Que si chacun de nous est appelé à être un fils et une fille bien-aimés du Père, et que nous le sommes par ce lien direct avec le Saint-Esprit, en même temps, nous devenons frères et sœurs bien-aimés. Vous voyez, il n'y a pas deux dimensions, une espèce de dimension verticale, vous voyez, et puis comme s'il y avait une autre dimension horizontale, mais qui était séparée. Ben, c'est le grand mystère du Saint-Esprit, c'est qu'il a relié les deux. Vous voyez, et que le Saint-Esprit a été donné à la Pentecôte, vous voyez, à la fois à chaque apôtre qui a été vraiment converti dans l'Esprit Saint, et le jour-là qu'il a reçu le baptême dans l'Esprit Saint, c'est après qu'il a pu exercer son sacerdoce vraiment dans l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est à ce moment-là que la réconciliation, le pardon s'est réalisé pleinement entre les apôtres. Vous voyez, et puis qu'en même temps, vous voyez, c'est cette communauté de frères et sœurs. Alors ça, c'est la grande grâce qu'il faut demander au Saint-Esprit. Vous voyez. Et cette grâce de frères et sœurs, vous voyez, aussi ça implique une autre grâce. Parce que ça implique la grâce de comprendre que l'Église est en même temps famille et peuple de Dieu. Vous voyez, qu'elle est famille, famille par sa foi, vous voyez, et famille qui soit savoir s'enraciner. Mais quand en même temps un peuple toujours prêt à partir, vous voyez. Je vous ai dit pendant le temps pascal, on doit demeurer et on doit partir. On est toujours prêt à partir. Vous voyez, et ce peuple de Dieu, ce peuple de Dieu en marche, allez, il doit aller évangéliser tout. Et il faut qu'on ait toujours les deux attitudes. Alors là, nous avons très besoin de l'Esprit Saint aussi. Vous voyez, nous avons besoin de l'Esprit Saint pour qu'il nous fasse comprendre que dans le sanctuaire tout intime de notre cœur, nous avons déjà commencé la vie éternelle avec Jésus, avec Marie, avec le Père, avec l'Esprit Saint. Vous voyez, que nous avons une vie d'oraison intime. Vous voyez, que nous avons déjà amené avec notre Dieu d'amour. Nous avons déjà commencé cette vie éternelle. Bon, mais qu'en même temps, cette vie éternelle ne nous sépare pas de nos frères, au contraire, ben, elle nous approfondit dans nos liens avec nos frères parce qu'elle nous permet de leur pardonner pleinement au moment d'en avoir le désir. Et puis d'autre part, elle nous donne une quantité de frères, bon, puisque nous n'avons plus le droit d'avoir des ennemis. Vous voyez, moi je vous avoue, j'avais tellement voyagé dans ma vie, mais j'avais très fort et j'ai toujours un cœur d'apôtre. Vous voyez, mais toujours très très bon d'aller au loin, Et puis découvrir, par exemple, que des tout petits enfants qui aiment Marie très fort, ben, qu'on se sent tout de suite, au fond, ben, qu'il y a tout de suite une unité qui s'établit, très fort. Vous voyez, le père O'Connor, il m'a demandé de parler, pas simplement il a posé la fédération, mais il m'a demandé de parler, au fond, à ce petit groupe, de parler, faire, au fond, ben, de sentir que dans cette université Notre-Dame, ces gens qui vont tout de suite, ben, le Saint-Esprit, oui, au fond, on voit que c'est la même famille. Au fond, une famille. Bon, et en même temps, être ce peuple qui est prêt tout le temps à partir. Bon, vous voyez, ça, au fond, ce n'est pas si facile que ça. L'Esprit Saint nous demande d'avoir ces attitudes. Vous voyez, si on considère l'Église comme une famille, non. Et le Concile n'a pas tellement insisté sur l'aspect de la famille. Bon, le Concile s'est insisté avant tout sur le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu en a. Parce que la qualité propre de la famille, c'est peut-être la foi des patriarches. Hein? Mais le peuple de Dieu en marche, c'est avant tout l'espérance. Mais une espérance qui naît de la croix, et une espérance qui nous pousse à savoir faire des sacrifices pour les autres. Et qui sait qu'une vie, on ne peut marcher, on ne peut qu'avancer qu'en aimant donner, qu'en aimant sacrifier. Vous voyez? Et alors le troisième don que nous demandons au Saint-Esprit, c'est de découvrir que Jésus à la Pentecôte, vous voyez, il a apporté, le Saint-Esprit a fait comprendre, vous voyez, aux apôtres, mais il a fait comprendre en le vivant, c'est par là que c'est une promulgation, vous voyez, qu'ils étaient une famille, mais une famille tout à fait unie, qu'ils étaient un peuple de Dieu en marche, et qu'il leur avait dit, allez, enseignez à toutes les nations. Et puis qu'en même temps, ils étaient vraiment une société, vous voyez, parfaite. Ils étaient une cité sainte. Ils étaient la Jérusalem, celle-là déjà sur la terre, parce que à ce peuple, à cette famille, Jésus avait donné des institutions divines avec ses sacrements, hein, visibles, sociales, hein, auxquelles chacun pouvait recevoir. Bon, mais des institutions qui donnaient l'Esprit Saint, vous voyez, bon, les sacrements. Cette Église mystique est en même temps l'Église sacramentaire. Vous voyez, et que c'est par ces sacrements humbles que cette Église est à la ressemblance de la Sainte Trinité. Que cette Église, elle nous fait entrer dans le grand mystère que l'union et Jésus et Marie ont connu sur la terre. Et que cette Église sacramentelle, bon, par le sacerdoce, bon, elle a des ministres. Hein, et que tous nous sommes appelés, d'une manière ou d'une autre, à vivre, au fond, ce sacerdoce de Jésus. Des ministres. Mais il faut bien voir le sens. Vous voyez, ne prenez pas le sens des ministres que la télévision nous donne. Le mot « ministère », c'est un mot qui est devenu, c'est le christianisme qui a donné le premier sens ce mot. C'est un service. Hein? C'est un service sacré, un service divin, un service qu'on fait pour Dieu. Vous voyez? Et donc un service qui implique de savoir sacrifier complètement, donner totalement. Hein? Qui implique l'humilité, qui implique le don total, sans le don sans regarder en arrière. C'est ça le ministère, essentiellement. Vous voyez? Mais qui impliquera aussi un magistère, hein? Parce que cette Église, bon, il faut que ces gens soient formés. Hein, elle est une école aussi. Bon, elle est une école avant tout de foi, d'espérance et de charité. Vous voyez ? Et alors au sommet de tout, il y a le Saint-Père. Vous voyez ? Et alors cette année, vous voyez, quelle grâce pour nous, au fond, de tâcher de nous unir au pèlerinage du pape en Angleterre, vous voyez, et puis à cette grande préoccupation du pape, cette audace du pape. Vous voyez ? Au fond, tout le monde, tous les sages de ce monde disaient, oh, c'est pas possible que le pape aille, vous voyez, en Angleterre pendant qu'elle est en guerre. Bon, ça, c'est pas possible. Mais le pape le désirait tellement. Le Saint-Esprit a fait comprendre. Et vous voyez, cette diplomatie de l'amour, ben, le pape a résolu le problème, mais il dit, ben, j'irai aussi en Argentine. En vrai, ça, c'est bien la réponse divine. Mais j'irai des deux côtés. Ben, et j'irai les deux côtés pour être un apôtre de la paix, pour demander à tous qui réalisent la paix. Ce sont des chrétiens Il faut qu'ils prennent conscience et que le monde entier prenne conscience que les chrétiens n'ont plus le droit de se battre. Vous voyez ? Et ça, c'est la grande grâce qu'on demandait au Saint-Esprit très fort. Vous voyez, parce que ce n'est pas simplement se battre avec le dehors. Vous voyez, nous savons très bien que toutes les batailles des hommes, elles viennent toujours des batailles intérieures. Vous voyez, et au fond, nous avons demandé au Saint-Esprit cette année, voyez, qu'il nous donne, bienheureux les pacifiques, et qu'il fasse de nous des agents, des artisans de paix, en faisant de nous des gens pleins de miséricorde, voyez, et en nous tenant toujours prêts, voyez, à savoir pardonner, bon, et à savoir que Jésus nous pardonne, avoir confiance dans ce pardon de Jésus.